Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Lucandiwa. L'émission est aussi mise en podcast sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du collectif La Tulipe Sauvage, en la compagnie de Alison, bonjour.
Bonjour.
Erika.
Bonjour.
Et Lucie.
Bonjour.
Toutes trois, vous êtes ici pour marquer votre opposition à l'extension de la zone d'activité nord à la plaine de Chamarges. Et pour ça, vous vous êtes réunis ce samedi 11 février, place de la Comtesse, pour vous concerter et peut-être aussi vous informer mutuellement de cette problématique qui ressurgit. Alors, en deux mots, comment présenter cet avis de votre part ?
En fait, les choses sont accélérées là, parce qu'il y a un avis de marché qui est sorti et la communauté de communes va avancer et cherche des entreprises. Donc là, l'avis de marché vient de se terminer cette semaine.
Les 14, ouais.
Voilà. Et des entreprises vont commencer les travaux début mars sur la parcelle, sur la zone nord de Chamarges, et installer les voiries et réseaux de distribution sur cette zone pour la lotir et la vendre.
Et ça, c'est sur de terres, pour vous, qui sont cultivables, donc sauvegardées, en quelque sorte.
Ouais, bah du coup, notre point de vue, c'est que la vision d'aménagement du territoire, qui sont des visions qui datent d'un certain temps, sont obsolètes. En fait, on s'est bien rendu compte ces 3 dernières années que il y a des phénomènes là d'accélération des problématiques à l'échelle de la planète et aussi du coup à l'échelle de l'endroit où on vit ici, qui sont vraiment problématiques. Et du coup de se dire qu'on va continuer à étendre la ville et notamment là une zone d'activité sur des terres qui sont potentiellement cultivables, c'est vraiment un sujet qui doit faire débat. D'autant plus que ces terres-là, en fait, ces parcelles, elles sont actuellement gérées par la communauté de communes. Donc ça concerne toute l'échelle de la vallée et des différentes communes, et dont la ville de Die, qui sont réunies sous cette entité de communauté de communes.
Et que aussi, effectivement, je pense que c'est des parcelles qui ont des qualités agronomiques très rares dans les Diwa. C'est des parcelles où on peut constater, après les feuilles archéologiques, où il y a une profondeur du sol de plus de 2,5 mètres. C'est des parcelles qui ont été épierrées depuis l'époque romaine, selon les recherches d'une copine qui est archéologue. Et c'est des parcelles qui ont accès potentiel à l'irrigation. Donc c'est quand même pas négligeable d'avoir à disposition encore des parcelles comme ça, malgré qu'elles ont été déclassées comme disait Lucie, par un projet de développement territorial qui est un peu obsolète, enfin, qui est carrément obsolète. Et je pense qu'il ne faut, pas ignorer que des terres aussi précieuses comme ça, on ne va pas en trouver partout dans les Diwa.
Parce que ce projet de zone d'activité date d'au moins 10 ans. Hein. Ça a été mis en place il y a une décennie, dans un contexte qui était plutôt favorable pour l'économie, son développement local. Ce qui a changé avec ces successions de crises, que ce soit la pandémie et puis la crise économique, et puis maintenant l'inflation. Donc est-ce que c'est toujours, à vos yeux, pour vous, c'est toujours un projet réaliste de réaliser cette zone d'activité au détriment de terres cultivables ?
Ben non, pas du tout. En fait, justement, c'est très problématique. Nous, on considère que, effectivement, cette vision de faire primer une certaine idée du développement économique à tout prix et que les terres cultivables soient systématiquement la variable d'ajustement des aménagements de territoire, ça ne convient plus en fait.
En fait, ça fait ces décisions, en plus, elles ont été prises il y a plus de 10 ans. Hein. Le PLU, il date de 2009. C'est des politiques qui datent presque voilà, il y a longtemps. Et quand on voit ce qui a été fait dans la zone sud, il y a vraiment cet argument économique et d'emploi, il est complètement faussé. Parce qu'il y a des millions qui ont été dépensés là en bon, on a récupéré en vendant aux entreprises, mais sur cette zone sud, il suffit de se promener là dans la plaine de Chamarges et regarder comment ça a été aménagé. Regardez comment la zone de Cocos est aménagée. Dans la zone sud, il y a, je crois, 6 emplois qui ont été créés. Je crois que c'est à peu près ce que la CCD a estimé. Là, dans la nouvelle zone, ils disent « Ah ben, de toute façon, les entreprises... ça ne va pas créer d'emploi directement, mais c'est les entreprises qui verront. » Donc cet argument de l'emploi, il est faussé. C'est pas, et on peut se développer économiquement d'une autre manière. On peut créer des emplois d'autres manières. Il y a plein d'autres façons, mais il faut être imaginatif et il ne faut pas continuer dans cette optique de bétonisation, il faut des terres pour se développer. Mmh.
Surtout quand on se retrouve face à plein bâtiments sous-occupés et des espaces, des parkings qui sont vides, on pourrait carrément envisager de redonner ces zones qui sont déjà artificialisées aux entreprises qui cherchent à s'agrandir. Mais du coup, ça demande de la volonté politique.
Est-ce qu'il y a eu, à vos yeux, suffisamment de concertation si le projet était déjà mis en route, est-ce que vous ne regrettez pas justement un manque de discussion dans le suivi de ce projet et de peut-être le remettre en question en fonction des problématiques d'aujourd'hui ?
Ben si, tout à fait. En fait, les personnes là qui se sont réunies et agrégées dans ce qu'est le collectif La Tulipe Sauvage, en fait, on est parti de ce constat-là. C'est que certes, il y a eu un certain nombre de dispositifs de consultation, concertation mis en place. Notamment, il y a une vingtaine d'années, quand le PLU... dans lequel on est encore et qui va bientôt être remis en question, a eu lieu. Et en fait, le truc qu'on a constaté, c'est que depuis 20 ans, en fait, le contexte a vraiment évolué et qu'il serait nécessaire qu'on ait la possibilité de remettre en question les politiques ou les choix politiques ou les choix d'aménagement qui ont été actés il y a une décennie ou deux. Au vu du contexte actuel. En fait, c'est comme là, si tout était inscrit dans le marbre et qu'il n'y avait plus possibilité de re-questionner les choses. Et du coup, nous, on s'est réunis là autour au sein de ce collectif avec l'idée de pouvoir re-questionner justement les élus sur cette problématique et en alertant, en disant « mais il y a un problème, en fait, on a pris des décisions il y a 20 ans et en fait, on se rend bien compte qu'on va dans le mur ». Et qu'il serait plus que grand temps de changer d'optique. Voilà. Donc là, du coup, nous, on a porté ce point de vue-là et ces paroles-là en allant chercher les interlocuteurs et interlocutrices élus. On a cherché la discussion. Il y a peut-être des zones de discussion ou de concertation, mais en tout cas, il n'y a pas d'entente. On n'est pas entendu, en fait. Il y a un problème d'écoute. Et de prise en compte, nous, de la parole qu'on a portée jusqu'à présent ces trois dernières années. Quoi.
Et par exemple, en 2020, il y a eu la révision du PLU, justement, qui a été écrit il y a plus de 10 ans. Et on a signalé plusieurs inconsistances, le fait de pouvoir remettre en question des décisions qui ont été prises il y a un moment et qui sont plus valables aujourd'hui. Et en fait, effectivement, comme dit Lucie, il n'y a pas d'écoute.
Oui. On est allé rencontrer le commissaire enquêteur. On lui a remis une pétition de plus de 1200 personnes qui a été signée et qui ont été signées par plus de 1200 personnes. On a fait valoir plein d'arguments et en fait, on n'a eu aucune réponse. et les travaux commencent.
Et en fait, oui, pardon, mais on a aussi investi beaucoup d'énergie là-dedans. On s'est rendu compte qu'en fait, en tant que personnes qui se sont concernées, en tant que collectif, on s'est donné la tâche d'aller chercher ces informations, d'aller gratter, d'aller demander et déranger.
Et de faire circuler l'information.
Voilà, alors que ce n'est même pas notre travail. Ça devrait être à la communauté de communes et à la mairie dédiée de donner toutes ces informations et de clarifier au plus vite ce qui est en train de se passer.
L'accès à l'information, justement, ça a l'air d'être assez dur comme parcours. Ce que je veux dire, pour argumenter votre propos, vous avez certainement enquêté, vous êtes certainement renseigné sur ce secteur auprès d'un public, du public aussi, et puis peut-être des acteurs. En face de vous, quel argument avait la CCD, même si peut-être vous n'avez pas eu de leur part une parole, puisqu'il n'y a pas eu de discussion. Alors, quelle est l'argumentation ?
Il y a eu un rendez-vous, et peut-être, oui. Du coup, toi, tu peux en parler, Alison, oui. Parce que participé à cette réunion.
Oui, on avait rencontré des élus de la communauté de communes, donc il y a 2 ans. Et donc, on leur a donné nos arguments, on leur a expliqué tout ça. En fait, juste pour résumer, et comme pour... illustrer ce que je vais dire. La première réponse de M. Matron a été « Ah, mais ce ne sont pas des terres agricoles. » Donc, en effet, ce ne sont pas des terres agricoles du point de vue de la législation. Mais n'importe qui se promène là, voit ça, ce sont des terres qui sont encore cultivables et, comme le disait Erika, qui ont une valeur agronomique essentiel dans le Diwa, parce qu'on a beau, on peut parler de la déprise agricole. En effet, en zone de montagne, oui, les agriculteurs, il y a des champs qui étaient cultivés autrefois qui ne le sont plus et la forêt regagne. Mais des terres en plaine pour cultiver des céréales et autre chose et vraiment se nourrir, il n'y en a pas tant que ça dans le Diwa. Il suffit de regarder autour de nous, de lever la tête, regarder les montagnes, regarder les paysages et se rendre compte que cette plaine de Chamarge, elle a un intérêt et un intérêt autre que de faire des hangars immenses pour stocker du matos. Surtout que l'entreprise principale concernée a déjà des hangars et a déjà des terres qu'elle n'a pas utilisées pour l'instant. Donc il y a des solutions et on en a proposé. On a rencontré cette entreprise, on a rencontré des dirigeants de cette entreprise qui nous ont dit « oui, on va échanger avec la communauté de communes à ce sujet-là, etc. » Et bien, pour l'instant, on n'a rien vu et les travaux vont avoir lieu.
Et en fait, des terres aussi riches, avec une fertilité évidente qu'on peut trouver en bas d'une vallée comme le Diwa, et bien, les passer sous les bitumes, ça va les tuer. Enfin, il y aura quand même un état d'irréversibilité si on fait ça. Donc, tant qu'elles ne sont pas cultivées, tant qu'elles ne sont pas bétonnées, si elles ont été déclassées, peu importe, on pourrait même revenir en arrière et se dire, en fait, on va les protéger. Elles ne sont pas été encore artificialisées, donc on les réclasse en agricole, parce que ça, il n'y a pas de problème, c'est sur le papier. Mais par contre, une fois qu'elles seront, si elles passent sous les bitumes, là, l'irréversibilité, elle est réelle, quoi.
En plus, on arrive dans le PLUI. Cette année, les choses vont se décider sur le plan local d'urbanisme intercommunal. Les choses sont en train de se rediscuter. Je pense que c'est pour ça aussi que les choses s'accélèrent et que la communauté de communes veut vite construire, vite urbaniser tout ça pour que ça ne rentre plus dans le débat. Mais on y est dans ce débat. Là, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut choisir et dire « Eh ben non, on s'est trompé il y a 20 ans. » Finalement, en effet, l'agriculture, l'alimentation sont importants pour nous et on va se nourrir localement et on va faire des choix courageux. Tous les élus de la communauté de communes, tous les habitants, on peut faire ces choix-là et on peut dire « Cette terre-là, finalement, on ne va pas la construire et on va réfléchir à d'autres solutions. On va utiliser l'espace à côté qui est déjà presque une friche urbaine. Il y a des entreprises qui étaient là, qui sont parties. Il y a des bâtiments vides. Il y a des bâtiments à vendre. Promenez-vous là-bas. Allez vous promener, vous verrez. Il suffit de se balader dans cette zone pour voir qu'il y a vraiment autre chose à faire que de construire sur ces terres.
Oui, puis c'est problématique parce qu'effectivement, une fois que les terrains sont vendus à des acteurs privés, eh bien, du coup,
la
collectivité n'a plus la main dessus. Ouais. Et ça, c'est super problématique parce que du coup, elles sont d'une manière assez irréversible perdues, quoi. Et effectivement, nous, on considère que ces terres cultivables... avec la problématique de l'autonomie alimentaire, on se rend compte qu'on aurait plutôt intérêt, avec une forme de bon sens, à se dire on les préserve et on les cultive, plutôt que de les vendre à des acteurs privés qui vont en plus se livrer probablement à de la spéculation à partir de leur propriété. Et voilà, donc du coup, c'est vraiment un sujet très très tendu et problématique au vu de l'époque dans laquelle on est.
La spéculation avait été évoquée justement à ce rendez-vous du 11 février, relevé par Vincent Paltera, de la Confédération Paysanne. Votre avis là-dessus, sur cet aspect de la spéculation, pour vous, comment percevez-vous cet aspect économique de la spéculation? Comment s'en informer? Qui informe sur ce sujet-là? Faut-il aller chercher l'information par soi-même?
J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'information publique sur ce sujet, en fait.
Il faut vraiment aller creuser pour aller voir chaque parcelle, à qui elle appartient, combien, si elle est utilisée, si elle n'est pas utilisée, si elle est à vendre, combien elle est à vendre. Parce qu'il y en a, il y a des terrains qui appartiennent à des gens, à des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des gros terrains, il y en a d'autres qui ont... Mais il faut aller creuser.
En tout cas, je pense que c'est des sujets qui des fois nous dépassent parce qu'on n'est pas des spécialistes dans les spéculations financières. Par contre, un truc qui est très clair, c'est que quand on a des parcelles qui appartiennent à des communes ou à des communautés de communes, à ce moment-là, c'est à tout le monde. On peut tous décider, on doit tous et toutes être consultés de ce qu'elles vont devenir. Une fois que ça passe dans les mains privées, dans un territoire comme les Diwa, où les prix fonciers ils sont en train d'exploser chaque année, et que c'est les privés qui vont avoir la main là-dessus. Ils ne sont même pas obligés de construire tout de suite. Ils savent que dans 2-3 ans, ces terres elles seront pris une valeur incroyable en tant que terrain constructible. Donc, je pense que même si on n'a pas toutes les informations très claires et que des fois, c'est des sujets qui peuvent paraître vraiment appartenir à une autre sphère, pour moi, c'est là les plus évidents. C'est que ça ne sera plus des terres qui appartiennent à tous et à toutes, et ça sera dans les mains de quelques-uns qui pourront décider qu'est-ce qu'ils vont faire, quand, comment, s'ils les revendent 3 ans, 10 ans plus tard pour faire un bon business, quoi.
J'ai juste une image en tête. Je ne sais pas si vous avez vu Fargo, des frères Coen. Ça se passe aux États-Unis, et donc dans une ville américaine moyenne. Et il y a un personnage qui désire investir une certaine somme d'argent pour créer un parking. Et donc il essaie de s'arranger avec sa belle famille. Et puis tout au long de ce passage, on le voit s'activer dans des parkings entièrement vides. Il y a des parkings partout, mais ils sont tous vides. Et lui, il veut encore construire un parking. À l'heure actuelle, la zone d'activité existante avec ses bâtiments, ses parkings, est la propriété de qui actuellement? Est-ce que ça s'est mis en lotissement et donc privatisé secteur par secteur? Ou alors c'est toujours la propriété d'une entité qui gère un peu cet espace?
La zone sud, qui a déjà été lotie, les parcelles ont été vendues et sont en cours de vente et de construction. À des privés. Ça y est, voilà, ça c'est fait. Il y a peut-être une ou deux parcelles qui restent à vendre, mais là-dessus, malheureusement, à moins que les entreprises se disent « Ah ben finalement, peut-être que j'ai pris un peu trop et peut-être que je peux partager parce que j'ai un grand parking. Peut-être qu'il y a un petit bout qui servirait à un artisan qui a besoin de 50 mètres carrés et il y a un bout de parking que j'utilise pas. Ça, ça serait une bonne idée. En effet, déjà cette zone sud, en l'état, alors même qu'elle vient juste d'être lotie, elle peut déjà être densifiée. Et par contre, sur la zone nord, eh ben, le projet, pour l'instant, les terres appartiennent à la communauté de communes qui va installer les voiries et réseaux de distribution, qui va faire des petits lots et un grand lot et qui va le vendre. Ça, c'est ce qui a marqué. Voilà.
Et une des choses, nous, qu'on a proposé, c'est aux élus, en fait, c'est est-ce que ça serait pas possible de changer de système et de, plutôt que de vendre les parcelles, que les parcelles restent la propriété de la collectivité et qu'il y ait un système de bail adéquat pour que, en fait, les entreprises où puissent voilà, accéder à des parcelles et en même temps qu'elles n'en soient pas propriétaires, que ça soit possible de récupérer, que la collectivité ait la possibilité de récupérer les parcelles si elles sont plus utilisées, en fait.
Je me souviens, quand je travaillais pour le Dauphiné libéré en 2011-2012, il y avait ce transfert des tulipes sauvages de ce terrain pour aller être installé, je crois, du côté de, aux environs du Martouret. Et il y avait une sorte d'urgence d'acquérir ce terrain parce qu'il y avait une demande très forte d'un lieu d'activité pour des entreprises. 10 ans après, on se rend compte qu'il y a encore des parcelles ou des terrains qui sont encore à vendre. Donc, où est l'urgence, finalement? Est-ce que ça va être aussi le même schéma proposé pour la partie nord, c'est ça? La zone nord, où on dit que c'est un facteur essentiel de l'économie locale.
Il y a plein de sujets là-dessus. Déjà, de nouveau, dans cette zone sud, il y a eu aussi des services qui se sont installés, ce qui n'était pas prévu. Des commerces, des bureaux, notaires, huissiers, coiffeuses. Ça, ce n'était pas du tout prévu au départ. Et un autre sujet, c'est aussi que sur cette zone nord, c'est aussi un peu... une fois qu'elle sera urbanisée, il y a aussi d'autres projets derrière. Il y a aussi un petit, je ne sais pas si c'est l'arbre qui cache la forêt ou la forêt qui cache l'arbre, mais il y a aussi un autre petit lotissement qui est prévu un peu plus loin, qui dépend de l'installation des voiries et réseaux de distribution par la communauté de communes, des terrains privés qui seraient lotis pour de l'habitation. Il y a aussi sur le cadastre et dans le PLU actuel encore une réserve pour un barreau prévu par le département, qui serait une route qui relierait la zone de la route de Poney à la route de Chamaloc, qui ferait encore une autre emprise urbaine. Bref, c'est une espèce de
ramification.
Oui, puis voilà. C'est comme si c'était un cycle sans fin. Moi, ce que j'ai compris aussi, là, en m'informant, c'est que, en fait, il n'y a plus de terrain pour de l'activité, de la zone d'activité dans la vallée. Donc, en fait, à Luc, apparemment, il n'y a plus de place, et à Châtillon, non plus. Et donc, la seule réserve potentielle, elle est sur cette zone d'activité nord. Et c'est moi, en tout cas, ce que l'effet que ça m'a fait en m'informant, c'est que c'est comme s'il fallait absolument transformer ces parcelles dans des zones, en zone d'activité. Voilà, le faire vite, vite, vite maintenant, d'autant plus que le nouveau PLUI là, est en train de s'écrire. Et que comme ça, on est sûr que ça, c'est bloqué pour de l'activité, mais sans vraiment se poser la question de qu'est-ce que ça donne, en fait. Donc c'est vraiment une sorte de vision aveugle, en fait. Voilà.
Oui, parce que quelle activité? Oui. Après, il faut vraiment se poser des questions sur quels sont les besoins. Et en fait, les besoins de l'emploi et aujourd'hui sont finalement pas forcément ceux qu'on imagine. La majorité des gens, il y a des emplois dans le Diois, c'est des petites entreprises. C'est des toutes petites entreprises qui ont des petits besoins. et qui pourrait très bien se contenter d'un petit bâtiment, d'une petite parcelle à partager avec d'autres, des choses qui existent déjà et qu'on a déjà là dans la zone de Cocos. Il y a le potentiel pour fournir à des artisans, des petites entreprises, largement ce qu'il faut.
L'extension donc urbaine, hein, en quelque sorte, puisqu'il est peut-être prévu des constructions de logements. Il y a l'année dernière, et depuis quelques années, une inquiétude pour l'eau. Est-ce que c'est aussi un aspect qui a été réfléchi sur cette extension? Est-ce qu'elle est viable? Est-ce que vous avez une réflexion là-dessus?
C'est surtout l'artificialisation qui fait qu'il y a l'eau va arriver direct quand il pleut, l'eau va arriver directement dans les fossés et repartir directement dans la Drôme si la zone est urbanisée. Donc il y aura plus il y a de béton, plus il y a des soucis par rapport à l'eau peut pas s'infiltrer et rejoindre les nappes phréatiques.
Et aussi plus il y a des activités qui s'étalent sur cette zone, effectivement, il y aura plus de pression sur l'eau qui pourrait potentiellement être dédié aux cultures, ça va être plutôt dédié à partir dans les habitations ou dans la zone d'activité pour après être retraité pour comment ça s'appelle, les stations d'épuration. Donc il y a quand même, je crois, pour cette extension, justement, comme il y a une grande surface qui est bétonnée, il y a des... Ils sont prévus des bassins
de rétention
calculé en surface par rapport à cette bétonisation, mais c'est effectivement parce qu'il y a un impact énorme sur l'hydrologie de la vallée quand on artificialise des terres, c'est sûr et certain.
Et d'ailleurs, ce bassin de rétention est prévu sur des terres qui sont encore agricoles.
Et encore à côté.
Quoi. Il le plasme, et c'est même pas situé dans la zone.
Dans la parcelle.
Dans la parcelle urbanisable. Ça bouffe encore plus.
Ouais.
Vous vous êtes renseigné justement sur ces infrastructures, routes, stationnement ou viabilisation de terrain. Quel est l'impact en profondeur de ces restructurations, de cette bétonisation? Est-ce qu'il y a une coupure au niveau des terres qui justement bloque la circulation de l'eau?
Après, le truc, c'est qu'ils vont prendre en compte, parce qu'il y a un dossier de 70 pages là-dessus, sur comment l'eau va s'écouler, etc., et comment elle va arriver jusqu'à la rivière. Le souci, c'est pas ça. C'est pris en compte parce qu'aujourd'hui, il faut faire des études pour savoir où l'eau va arriver, où elle va circuler, etc. Heureusement, et tant mieux. Le souci, c'est surtout que l'eau, au lieu de s'infiltrer dans la nappe phréatique, là, elle va aller direct jusqu'à la Drôme et elle descend. Elle part, elle ne va pas rejoindre la nappe.
Et que surtout, c'est une infiltration douce. Quand tu as des terres qui sont encore... avec un couvert végétal, ça s'est fait comme une éponge, ça s'est fait doucement, cette infiltration, ça profite à énormément de l'ensemble du vivant, champignons, bactéries, végétales, animaux. Là, elle est carrément perméable, la couche, donc l'eau, elle coule directement sur ces bassins de rétention pour partir directement dans la rivière, et tous ces terres qui auront pu profiter, et tous ces vivants qui auraient pu profiter de cette eau-là, ne sera plus irriguée, quoi. Et ça, c'est dommage.
Vous-même, avez-vous réfléchi aussi à des terrains qui pourraient peut-être remplacer ce projet de zone d'activité nord, plutôt de l'installer ailleurs? Est-ce que vous avez aperçu des terrains qui seraient propices au désir de la communauté de communes de développer son économie locale?
La première proposition, c'était de dire faisons avec l'existant.
Oui,
il y a déjà eu deux zones de créer. En fait, c'est sans doute largement suffisant pour...
Il y a eu même de la part de la communauté de communes, il reconnaissait une sous-utilisation du coup de la zone sud. De la zone sud, pardon. Il parlait d'un pourcentage, mais il me semble que c'était autour de la moitié... du coup, d'un espace qui est déjà artificialisé et sous-utilisé. Et que du coup, une des propositions, c'était déjà de faire un diagnostic dans la zone existante pour voir ce qui pourrait être fait dans cette surface qui est déjà construite. Encore une fois, tant que cette zone nord n'est pas construite, on peut encore revenir en arrière. C'est juste une question des papiers. Les réclasser en agricole, ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est quand ça sera artificialisé, là, il n'y a plus de retour en arrière, quoi.
Dans la zone de Cocos, il y a en effet, oui, des terrains, il y a des zones qui sont publiques, qui sont utilisées comme parking pour des entreprises. Il y a des entreprises qui ont des terrains qu'elles n'ont pas encore lotis. Il y a de la place. Oui, et il y a vraiment moyen de... D'ailleurs, la communauté de communes avait dit qu'ils allaient faire une étude sur la requalification de cette zone de Cocos. Pour l'instant, on n'a rien vu. Et ça aurait peut-être dû être la première chose à faire. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on se précipite pour construire sur les terres agricoles avant de rendre public et vraiment réfléchir sur que faire de ce qu'il y a déjà d'existant.
À votre connaissance, existe-t-il un calendrier de ces travaux qui vont commencer bientôt?
Voilà, la communauté de communes annonce qu'ils vont démarrer en mars et que d'ici la fin de l'année, ça sera fini pour être loti à partir d'octobre de cette année ou quelque chose comme ça.
Est-ce que vous interviendrez encore ou est-ce que vous organiserez encore d'autres rencontres sur cette thématique dans les prochaines semaines?
Oui, c'est prévu. Du coup, ce qu'on vous propose, c'est à toute personne qui souhaite être tenue informée des prochains rendez-vous qu'on va proposer, c'est de nous écrire à l'adresse mail du collectif, à savoir la tulipe sauvage en un seul mot, en minuscule, @riseup, riseup.net.
Et aussi, on invite donc toutes les personnes qui se sentent concernées par ce sujet à s'informer, à interpeller leurs élus, à interpeller les élus de la communauté de communes et à vraiment s'emparer du sujet, se creuser ce sujet et vraiment... Voilà.
Et à aussi poser des questions à tous les acteurs que nous, on a identifiés comme impliqués dans ce sujet. Donc, il y aura toutes les boîtes des BTP dans les DIWA qui pourraient aussi être interpellées. On peut aller leur poser des questions. Il y a Nateva, il y a la communauté de communes, il y a nos communes à chacune. Et en fait, il ne faut pas se gêner pour aller poser des questions parce que s'ils ne se donnent pas la peine de nous informer, ben, on va aller gratter les informations, quoi. Et du coup, je voudrais juste partager avec vous ce que nous, on avait beaucoup discuté en tant que collectif sur les demandes précises qu'on voudrait présenter à nos élus. Et voilà, si les gens adhèrent, portez ça aussi à l'avant. Donc, c'est un arrêt immédiat et définitif de toute artificialisation des nouvelles terres agricoles, y compris celles ayant été déclassées et n'étant pas encore construites. 2, ça serait un statut de protection pour toutes les terres agricoles. Et 3, aucune vente des terres appartenant aux collectivités locales. Voilà. On s'est dit que déjà, ça serait un bon début pour penser une autre façon de développer notre territoire.
Alison, Erika et Lucie, je vous remercie toutes les trois d'être venues sur RDIWA. Pour nous parler donc de cette zone d'activité nord à laquelle vous vous opposez. Merci.
Merci à toi.
Et bonne fin de journée. On propose des alternatives.
Ouais, on est aussi du coup pour beaucoup d'autres solutions et une autre manière de vivre en fait.
On n'est pas que contre, on est pour. D'ailleurs, c'est collectif pour le maintien des terres agricoles, pour l'autonomie alimentaire et la biodiversité.
Voilà, ce sera le sujet d'une autre émission. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.